Creek.com.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Bonjour Madame Louise Buzit-Beaulieu et merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Marcaro sur CKUT 90.3. Aujourd'hui, tout d'abord j'aimerais que vous vous présentiez vous-même, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Oui, bonjour Monsieur Bucur, ça me fait, est-ce que je prononce comme il faut
Bucur? Ben, disons qu'en roumain on prononce beaucoup, le U c'est le OU, mais c'est bon.
Bucur. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la maltraitance et plus particulièrement l'âgisme. Moi je suis Louise Buzit-Beaulieu, je suis la coordonnatrice nationale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées d'expression anglaise et de communauté culturelle. Puis on sait qu'on doit faire beaucoup de sensibilisation auprès des aînés de toute origine, compte tenu que les personnes qui ne parlent ni français ni anglais sont souvent vulnérables à différentes situations de maltraitance. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte pour parler un peu plus de l'âgisme. Hein? C'est une problématique particulière qui a été fréquente pendant ce contexte de pandémie qui a été difficile pour tous. Là. On ne peut pas le nier. Là.
Définissons un peu c'est quoi l'âgisme.
En fait, l'âgisme, je dirais que c'est une des causes de la maltraitance. Souvent, c'est à la base de tous les types de maltraitance et c'est en soi un type de maltraitance. Mais si on veut simplifier et vulgariser avec des mots simples, c'est d'avoir des pensées négatives concernant l'âge d'une personne et de faire preuve de discrimination dans nos actions en fonction de ces pensées négatives-là, en fonction de ces personnes-là. C'est vraiment ça. Puis l'âgisme, ça peut commencer beaucoup plus tôt, hein, au niveau du travail, comme plusieurs vont y penser. On peut empêcher quelqu'un de travailler parce qu'on le trouve trop vieux, alors qu'il a toute l'expérience nécessaire pour occuper l'emploi, même si c'est le profil tout désigné pour occuper l'emploi et on va le refuser, ça c'est vraiment de l'âgisme et on peut empêcher une personne de continuer à travailler alors qu'elle n'est pas prête à prendre sa retraite et même si elle fait encore un excellent travail. Donc l'âgisme, on discrimine par rapport à l'âge de quelqu'un.
Exactement, l'âgisme, mais aussi, puisqu'on on parlait de l'embauche et puis des emplois, les jeunes, finalement, je pense que les jeunes entre 15 et 24 ans, ils sont le plus exposés au chômage, finalement. C'est parce qu'on discrimine les gens plus âgés, mais aussi les jeunes. Donc, c'est un peu bizarre tout ça, là. C'est peut-être pas une situation seulement au Québec, mais je pense que cette situation-là existe un peu partout au
oui,
monde.
Il faut raffermir, je dirais, nos lois, nos politiques en matière d'embauche pour que ça arrive de moins en moins. C'est ce que je dirais, là. Il faut vraiment travailler comme les gouvernements doivent faire leur part pour pouvoir inciter les employeurs à embaucher ces personnes-là. C'est de la belle expérience, c'est de la belle énergie, du dynamisme. Puis c'est souvent un mélange des âges qui rend une équipe encore plus efficace et encore plus, je dirais, efficace et humaine.
Je sais qu'il y a des pays en Europe où, par exemple, quand on envoie son CV, on demande sa photo aussi et la date de naissance. Bon, ici, en Amérique du Nord, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais malgré tout, les employeurs savent compter assez bien là. Et je pense qu'ils identifient quand même, après les études et tout ça, l'âge de la personne. Donc, comment pensez-vous que les gouvernements pourrait intervenir et stopper ce genre de pratique? Là, on parle de l'embauche, mais on va en parler aussi des gens qui sont déjà à la retraite et tout ça. Comment les gouvernements pourraient, parce que c'est pas une chose évidente, là.
Il faut vraiment travailler sur des politiques d'embauche et contrôler de plus près la façon dont les employeurs respectent les politiques. Tout est là. C'est sûr que ça veut dire des investissements, engager des gens pour exercer un certain contrôle, mais à mon avis, il faut aller vers ça pour qu'il y ait moins de discrimination. Et évidemment, ça, je sors un peu de mon dossier qui est davantage les personnes aînées là, de toute origine, oui. Aînées, on parle de 65 ans et plus généralement, mais quand on parle d'aînés, de personnes immigrantes, on peut déjà commencer dans la cinquantaine à considérer parfois, là, dépendant du vécu de la personne, parce qu'il y en a qui ont des parcours migratoires assez difficiles, et puis ça a un impact sur leur santé, sur le vieillissement aussi. Là.
Hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille?
Pas bête, ça! Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ouais, ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Les gens plus âgés ont été exposés plus avec la pandémie, le COVID-19. Comment est-ce que vous pensez que finalement la population en général regarde les gens plus âgés différemment maintenant après la pandémie?
Oh, je pense qu'il y a du travail à faire pour que la société puisse se transformer face au regard envers les aînés. Parce que le regard que la société a envers les aînés, c'est un regard très négatif. Et ça doit changer. Et c'est un travail qui va se faire à tous les niveaux. On a tous une responsabilité comme société pour transformer notre culture de société, notre culture sociétale face aux aînés. Il faut mettre en lumière tous ceux et celles qui ont plus de 70 ans et qui s'illustrent dans des domaines importants. Là, il y en a qui font des marathons à 80-85 ans, il y en a qui s'illustrent en musique, il y en a qui s'illustrent dans le communautaire. Donc, il faut mettre en lumière ces gens-là pour démontrer tout ce qu'ils continuent à apporter à la société. C'est là qu'on va voir que leur contribution est encore drôlement importante.
Pensez-vous que les gens qui sont plus jeunes, ils sont pas conscients du fait que finalement, ils vont arriver aussi à un certain âge? Donc, je pense que c'est un processus qu'on peut pas arrêter là. C'est le vieillissement et puis finalement la disparition. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas que finalement, ça fait partie de la vie et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et normal?
Peut-être parce que le rythme actuel ici, au Québec, au Canada, est très effréné et on n'a pas le temps de vraiment penser à ces éléments-là qui sont des valeurs importantes. Hein. Il faut transformer même nos valeurs pour pouvoir mettre en lumière ces gens-là et considérer que nous, on aimerait ça être comme ces personnes-là. Avoir un modèle pour se dire, là, moi, je fais ma vie et quand je vais arriver à ces âges-là, j'aimerais ça être comme telle personne. Alors, adopter des modèles, c'est très riche puis ça nous aide à atteindre nos objectifs de vie. Les jeunes devraient aller vers ça, mais il va falloir qu'on aille dans les écoles. Ça fait partie du plan d'action 2022-2027 pour le plan d'action gouvernemental en matière de maltraitance. Travailler encore davantage à sensibiliser les jeunes au niveau du primaire, du secondaire, du cégep, de l'université, afin qu'ils comprennent mieux justement le vieillissement, mais aussi ce qui perdure dans le temps malgré le vieillissement. Il y a beaucoup de choses qui sont encore... Puis plus on reste dynamique, plus on va être alerte longtemps. J'ai une amie dont la mère a 95 ans et elle fait encore ses repas et elle fait des recettes et tout ça. Parfois, il lui manque quelque chose, elle appelle sa fille et elle dit « Bon, j'ai besoin de telle affaire pour faire telle recette. » Ça nous démontre que c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable. Puis si on reste dynamique, il faut justement permettre aux aînés de continuer à être actifs puis ne pas les discriminer, ne pas les empêcher de faire des activités physiques, de participer à du théâtre ou à n'importe quoi qu'ils ont envie de faire. Tout est là. Comme jeune, on a une responsabilité de dire « Hey, ça va être le fun parce que justement, cette personne-là est là avec nous puis ça va être riche mutuellement. »
Parce que les gens vivent plus longtemps maintenant. Je pense qu'on attend là pour les femmes, c'est 85. En tout cas, je sais que ça a baissé un peu avec le COVID, mais bon, c'est quand même, et peut-être les jeunes qui sont nés aujourd'hui, où ils vont, on peut s'attendre que ça, ils vont vivre beaucoup plus longtemps. Oui, 95, 85 ou 90. Donc, il y a des changements au niveau de la société.
Et il y a des changements à faire, puis il y a des changements qui se passent actuellement au niveau de la science pour permettre aux gens de rester en santé plus longtemps dans leur vieillissement. Et ça évolue beaucoup, beaucoup depuis quelques années. Donc, c'est très positif. On va dans la bonne direction, mais il faut conscientiser les jeunes, il faut conscientiser toute la société au fait qu'on va tous vieillir. Et on aimerait ça être bien traité quand on va être rendu là. Donc, quand on fait preuve d'âgisme, c'est de ne pas respecter l'aîné pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut apporter au sein de la société. Ce que j'ajouterais, c'est que l'âgisme, ça se manifeste sous deux formes. Hein. La forme violente, c'est quand on a des propos âgistes par rapport à la personne, puis on la discrimine. Puis il y a la forme négligente, c'est comme personne qui est témoin d'une situation d'âgisme puis qui ne réagit pas, parce que ça, c'est la plupart du temps ce que les gens font. Ils ne réagissent pas envers des propos âgistes qu'ils entendent. Et c'est ça qui fait que c'est de la négligence, là. Et la personne qui est affectée par ce propos âgiste, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, sa détresse par la suite. Et puis, il y a d'autres types de maltraitance qui vont se manifester parce que généralement, l'âgisme, c'est avec tous les types de maltraitance. Donc, on se dit « elle n'est pas capable, on va la déménager ». Ah, elle ne pourra pas continuer de garder sa maison. Oui, elle peut obtenir de l'aide à la maison pour pouvoir continuer de garder sa maison. Quelqu'un qui va faire son ménage, qui va passer la tondeuse, qui va nettoyer la piscine. Il y a moyen d'avoir de l'aide. Donc, au lieu de vouloir comme enfant déménager sa mère alors qu'elle est encore bien, alors que ça peut avoir des impacts significatifs sur ses capacités de la déménager, parce qu'on le sait que ça, des déménagements, c'est un stress très, très important. Et là, les capacités cognitives peuvent diminuer. Donc, il faut travailler justement à la garder chez elle parce qu'elle va pouvoir continuer à être active. Elle va garder ses capacités et puis c'est gagnant pour tout le monde. Mais les enfants, c'est pas ça qu'ils font. Quand ils jugent eux autres qu'elle est assez vieille, bon, ben là, on la déménage. Là, on va s'occuper des choses pour elle. Mais elle, est-ce qu'elle est prête à ça? Est-ce qu'on la met au pied du mur, là, qu'on veut s'occuper de ses affaires, est encore capable, si elle n'a pas eu de diagnostic de maladie dégénérative, à ce moment-là, est encore capable. On ne doit pas prendre la décision pour elle. Il y a beaucoup d'enfants qui prennent la décision pour leurs parents. Et c'est là où on n'est pas correct. Tu sais, je pourrais ajouter des exemples comme il y a une fête familiale, puis il y a une partie de la famille qui vit à Québec, par exemple. La personne est de Montréal. les enfants qui ont à se déplacer disent « Ah, ben on n'amènera pas maman, cette année est trop vieille. » Plutôt que de lui demander « Te sens-tu capable d'aller à Québec pour la fête familiale? » On prend la décision qu'on ne l'amène pas. Alors, ça, c'est de l'âgisme et ça, c'est inacceptable. C'est un manque de respect de la personne. C'est même, je dirais, une violation de son droit fondamental. Si elle a envie de faire partie de cette fête-là, peut-être qu'elle ne conduit plus, mais peut-être qu'elle a envie d'être là. Et à ce moment-là, il faut lui demander son point de vue plutôt que de prendre la décision pour elle. C'est un exemple là, qui est flagrant puis qui démontre les déménagements dont je parlais. C'est arrivé tellement souvent que les enfants vont visiter leur mère qui est veuve, par exemple, ou leur père qui est veuf. Et là, ils prennent la décision pour elle. Il est temps que tu déménages. Là, mais non, je suis encore capable de payer mes factures. Je suis encore capable d'entretenir ma maison. Mais ils prennent la décision et c'est ça qui n'est pas acceptable.
Il y a des sociétés, notamment en Europe, où les enfants ils sont fiers d'apporter de l'aide à leurs parents. Et puis, je dirais qu'il y a des pays où si on veut déménager ses parents, c'est très mal vu, en fait, par la société en général. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on ne fait pas ça? Est-ce qu'on l'a déjà fait dans le passé et puis ça s'est perdu? Ou bien c'est parce que les gens sont... Ils ont d'autres priorités là que de prendre soin de leurs parents âgés.
Mais moi, je répondrais que ça a déjà existé que les enfants gardent leurs parents à la maison et s'en occupent. Et c'est comme si la maison, on la garde avec nous. Elle peut peut-être vendre la maison, mais on la garde avec nous, on ne la place pas.
Exactement.
C'était quand même assez fréquent. C'est moins fréquent parce qu'il y a des résidences qui existent. Pour beaucoup de communautés, je parle des communautés culturelles, il y a des résidences partout. Puis les enfants ont moins de temps. Souvent, je dirais qu'il y a une catégorie d'âge là, de proches aidants entre 50 et 60, 65. Ils ne sont pas à la retraite, sont au sommet de leur carrière. Ils ont des enfants adolescents ou jeunes adultes. Alors, ils ont beaucoup de responsabilités. Et puis, c'est comme si les parents, ça s'ajoute à ça, puis ça devient trop. Alors, ils se disent, bon, on va régler le problème, on va la placer. Mais on devrait réfléchir, nous, est-ce que c'est ça qu'on va vouloir quand on va être rendu là? Si ce n'est pas ça qu'on veut, probablement que notre mère, ce n'est pas ça qu'elle veut non plus. Il y a un moyen de trouver des solutions alternatives pour ne pas être obligé de la déménager parce que peut-être les enfants ne réalisent pas que le déménagement a un impact significatif sur les capacités d'une personne un peu plus âgée. Alors que si on la garde au même endroit, elle va rester, les capacités vont être intactes. Il n'y a rien qui va changer. Elle va vieillir, mais lentement, alors qu'elle peut vieillir beaucoup plus vite si elle est déménagée, compte tenu des impacts que ça a. La pandémie a eu des impacts sur les aînés. C'est prouvé par les recherches scientifiques. Parce que les gens ne sortaient pas suffisamment, il n'y avait pas d'occasion, beaucoup de marchés. Hein, ça a été, on les gardait confinés. Et là, ça a eu des impacts cognitifs au niveau physique, mais également au niveau psychologique et cognitif. Donc, il y a eu beaucoup de détresse psychologique qui a été liée à ça. Et malheureusement, on s'est occupé de la santé publique. Au niveau de la santé publique, on s'est occupé des problèmes de COVID, mais on n'a pas tenu compte des impacts de ces confinements-là sur les personnes aînées. Et c'est dommage parce que là, les conséquences, les impacts, on les voit maintenant qui surgissent. Là. Il y en a qui sont obligés d'être placés, qui étaient en HLM, qui étaient autonomes, qui fonctionnaient. Et en l'espace de 6 mois, ça a évolué d'une façon épouvantable. C'est triste.
Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les ressources financières qui sont limitées pour les gens qui sont à la retraite. En général, le revenu baisse beaucoup. Et puis, parce que, bon, pour des raisons, les gens ne cotisent pas ou, je ne sais pas, pour les retraites sont pas importantes. Là. Et ça, je lisais quelque part que ça a de l'impact sur la santé des gens. Parce qu'ils mangent moins bien, moins de légumes, moins de fruits, de la viande et tout ça. Et donc, tout ceci, ça peut avoir un impact sur la santé et puis sur la... Exactement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous avez tout à fait raison. Il y a des études qui démontrent que lorsqu'elles arrivent ici, ces personnes-là sont en excellente santé, même celles qui sont parrainées, là, qui viennent par le regroupement familial, elles arrivent à 60, 65 ans en santé, mais au bout de 10, 15 ans, on remarque que leur santé a décliné, compte tenu probablement aussi du fait que le mode d'alimentation au Québec, au Canada, nord-américain, je dirais, bon, beaucoup de fast-food, de la nourriture moins bonne pour la santé. Et comme vous dites, le fait que ça coûte plus cher, on réduit la quantité de légumes qu'on mange, les fruits, et on mange, bon, évidemment, de la cuisine plus riche, moins santé. Alors, dans un contexte comme ça, ça joue sur l'état de santé, puis ça fait en sorte que la personne va vieillir plus rapidement. Et puis, elle peut décéder plus rapidement aussi.
Pour les communautés culturelles, vous pensez qu'il y a quand même... Bon, l'intégration, déjà, elle n'est pas évidente, là, pour les gens qui arrivent au Québec, au Canada, mais puis pour les immigrants en général. Dans n'importe quel pays, il y a de la résistance, les gens... Mais est-ce que... Quand on a les deux problèmes, donc on est immigrant et en plus on est plus âgé. Comment gérer tout ça là? C'est pas évident.
Non, mais si on est arrivé à l'âge de 30 ans et qu'on a vieilli, on s'est adapté. Puis ce qu'on a constaté, c'est que ceux qui sont arrivés à 30 ans, ils ont appris le français, l'anglais. Souvent, ils ont trois langues. C'est deux langues plus la langue maternelle. On l'a constaté pour plusieurs communautés européennes, entre autres. Là, maintenant, on a une immigration qui est beaucoup d'Afrique du Nord, mais ils parlent le français dans plusieurs cas. Là où ça peut être plus difficile pour l'intégration, c'est certaines communautés sud-asiatiques, par exemple. Parce que la personne arrive à un âge plus avancé, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de parrainage ou de regroupement familial de ces communautés-là. Et à 60 ans, il est très difficile d'apprendre une nouvelle langue. Dans un contexte comme ça, l'intégration peut être difficile. Et souvent, ce que j'ai constaté dans plusieurs communautés et dans plusieurs régions, ce qu'on me dit, c'est que les enfants font venir leur mère quand ils ont fondé leur famille, tout ça, ils sont prêts. Et puis la mère vient, puis elle est toute heureuse de rencontrer ses petits-enfants, de s'en occuper, mais on en fait un petit peu, puis je ne veux pas généraliser, mais il y a eu des cas où on en fait un petit peu des esclaves à la maison, hein? Et puis ça peut faire vieillir un peu plus rapidement aussi, quand on a toujours des tâches assez importantes à faire au quotidien. Au début, ça leur fait plaisir. Mais les exigences souvent restent les mêmes au fil du temps, même si elle vieillit. Et c'est là où ça devient plus difficile pour la personne aînée. Et puis, elle est dans une culture où c'était ça. On est habitué de donner puis de se donner pour aider les enfants puis les petits-enfants. Mais il faut se protéger aussi. Puis les personnes aînées ne se protègent pas suffisamment. Alors, il y a des problématiques à ce niveau-là aussi. Puis, je ne peux même pas mettre d'étiquette sur des communautés. Ça arrive dans beaucoup de communautés. Où on constate, là, pour les personnes qui viennent s'installer ici par le regroupement familial. Parce que quand elles arrivent plus jeunes, c'est plus facile de s'intégrer, malgré qu'on a des générations de femmes italiennes, grecques, qui n'ont pas nécessairement appris le français, ou ils l'ont appris, mais en vieillissant, ils perdent la langue acquise, et puis ils retrouvent... Alors, elles deviennent vulnérables, ces personnes-là, compte tenu, justement, de la barrière de la langue, là. Fait que ça ajoute aux enjeux des personnes aînées et les normes culturelles font en sorte que même si on parle de maltraitance, ils n'ont pas toujours le même discours que nous par rapport à la maltraitance. Pour eux, ce n'est pas de la maltraitance que de demander à la personne de faire le ménage, de faire la cuisine, de s'occuper des enfants, des petits-enfants et tout ça. Alors que si la personne vieillit, qu'elle a moins de capacité, puis qu'elle se sent incapable de dire non à ses enfants, elle va continuer, mais c'est de la maltraitance. Ça nuit à sa propre santé physique et psychologique. Alors, on est obligé d'en parler. Puis l'âgisme est à la base de tout ça.
Quoi faire quand on est témoin d'un geste d'âgisme? en tant que, bon, disons, quelqu'un qui voit ou bien quelqu'un qui est impliqué directement?
Mais en fait, si on est témoin puis qu'on est présent puis qu'on voit que la personne est vraiment traitée d'une façon très irrespectueuse, très agiste, que le propos est discriminatoire, bien, on peut réagir. On peut dire, bien là, je ne suis pas confortable avec ce que vous êtes en train de dire là. Cette dame-là ou cet homme-là a le droit d'assister à cette activité-là ou à faire telle chose. Il n'y a pas d'âge par rapport à... Il y a les mêmes droits que n'importe qui. Et ça, en plus d'être agiste, c'est de la violation des droits. Donc, il faut le dire. Il faut dire que ce n'est pas acceptable. Je ne suis pas confortable avec ça. On ne devrait pas dire ça. Moi, ça me fait plaisir. Si ça se passe dans une résidence, par exemple, qu'une autre aînée voit, bien, on peut le dire, là. Bien, ce n'est pas correct ce que tu es en train de dire là. Et il faut réajuster le discours. Puis, et si ça mène à des actes vraiment de violation de droits, il faut les dénoncer aussi. Il y a vraiment des endroits pour pouvoir avoir du service, comme la ligne aide à but aîné. Si on est une personne aînée et qu'on se sent discriminé, on se sent blessé par des propos agistes, on peut appeler la ligne aide à but aîné. Je vais vous donner le numéro. C'est le 1-888-489-2287. Je répète, le 1-888-489-2287. Si c'est quelque chose de plus grave, à Montréal, il y a des agents sociocom et du SPVM, on appelle notre agent sociocom, on appelle le SPVM de notre secteur où on se rend, puis on parle de ce qu'on a vécu et l'agent sociocom peut nous aider à prendre les bonnes actions face à ce qu'on vit. Si on est témoin puis qu'on est proche de la personne qui a vécu ça, bien là, on peut l'aider encore plus. Il faut être empathique, vraiment lui dire qu'on est avec elle, qu'on a beaucoup de compassion puis qu'on trouve ça inacceptable ce qui s'est passé là. Et il faut l'accompagner dans sa démarche de plainte s'il y a une plainte à faire. Si c'est dans un établissement, par exemple, on peut contacter le commissaire aux plaintes de notre établissement, de l'établissement visé. Et le commissaire, on peut obtenir de l'aide du CAAP, c'est le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Alors ça, c'est un organisme qu'on peut contacter aussi si on veut rédiger une plainte. Mais sinon, il y a des organismes communautaires. Le 211 permet d'avoir accès à un organisme communautaire parce que des personnes de communauté culturelle qui ne sont pas à l'aise avec le réseau comme tel de la santé, mais ils sont à l'aise avec un intervenant communautaire qui va les écouter. Alors, on peut appeler le 211, on va savoir quel est l'organisme qui est près de chez nous, puis on va pouvoir parler à un intervenant qui va nous guider, qui va nous référer vers la bonne ressource. Mais il faut aller chercher de l'aide, on ne laisse pas, on se laisse pas faire. Il faut, comme aîné, ne pas se laisser faire. Il faut agir, il faut contrer ces gestes agistes, puis il faut les dénoncer. C'est très, très important.
Madame Louise Buzy-Beaulieu, merci beaucoup. Le temps passe vite et puis à la prochaine, certainement, on va en discuter davantage.
D'accord, et peut-être même pour la journée des aînés à l'automne, on pourrait parler de d'autres types de maltraitance ou on pourrait parler de bien-traitance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien-traitant envers un aîné, étant donné que ça va être la journée des aînés où on veut vraiment les fêter? Ça serait l'occasion de démontrer ce qu'est la bien-traitance et je pourrais en parler avec vous.
Excellent. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânti miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai. Aș vrea ca ise dacă ai. Aș vrea zăpadă de 3 metri, o casă mată kilometri. Aș vrea puțină
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host, Vishwal Ramakrishnan, going to play for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. And of course, the program you're listening to is Hotel the Blues. Now, to get tonight's program started off, I'm going to start off with a big hitter, a big number. And that's partially because we had a big blues birthday this past week, and I can't wait to just announce it. And of course, this guy, he's no longer with us, but my goodness, his legacy is with us every time we pick up a guitar and decide to play the Chicago Blues. He was born on June 10th, 1910 in White Station, Mississippi, a tall kind of person, and in fact, one of the few bluesmen to ever drive their own car up from the Delta to Chicago. Of course, I'm talking about that giant, Howlin' Wolf, and here he is playing for us, I Didn't Know, live at Alice's Revisited in 1972. Here he is playing I Didn't Know. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.